Bien. Alors, nous en étions donc arrivés à cet extraordinaire tombeau sarcophage du Sapao Wirkak, et nous avions examiné la dernière fois les scènes biographiques, et nous avions commencé à examiner les scènes religieuses, la prédication du sauveur final et les angoisses de l'âme du trépassé et de son épouse dans les trois jours qui suivent la mort. Et donc ça prenait place sur le panneau qui était là, et immédiatement après, il y a donc trois panneaux, mais qui en fait forment une seule composition, et qui montrent ce qui se passe une fois qu'on a franchi l'épreuve des trois jours et trois nuits après la mort, c'est-à-dire le franchissement du pont du Chinwat, abondamment décrit dans les textes zoroastriens. Et donc j'avais expliqué donc les deux prêtres qui, en quelque sorte, expédient les âmes sur le pont, le couple des défunts qui est ici, suivi d'une caravane, parce qu'évidemment, et de divers animaux, parce qu'évidemment, un soglien ne peut pas se résoudre à aller dans l'au-delà sans ses richesses. Ils sont accompagnés de jeunes enfants. Alors, bon, ça pose un problème, puisque dans l'épitaphe ne sont mentionnés que trois fils adultes. Alors, il est possible qu'il s'agisse d'enfants qu'ils auraient perdus plutôt auparavant qu'ils retrouveraient dans l'au-delà au moment du décès. Ça, les textes zoroastriens en parlent, ça, que les familles seront réunies dans l'au-delà et les gens morts avant 15 ans, les gens morts avant 30 ans, les gens morts avant 15 ans auront 15 ans au paradis et ceux morts après 15 ans auront 30 ans. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Et donc, ils sont en train de franchir le pont, et j'avais donc commenté quelques petits détails. Les deux chiens à l'entrée du pont, on en voit, alors c'est mal coupé ici, mais on en voit un. Voilà, ils sont ici, qui sont décrits dans les textes zoroastriens comme gardant l'entrée du pont du Chinwat. La boule de feu qui est décrite comme guidant les âmes dans les ténèbres de l'enfer. Et on avait vu aussi que c'est extrêmement bien conçu, ce tableau. Les âmes viennent de franchir l'axe de la bouche de l'enfer marquée par la gueule du crocodile. C'est-à-dire qu'ils sont sauvés. Ils ont passé le test. S'ils n'avaient pas passé le test, le pont se serait réduit à une lame de rasoir et il serait coupé en deux et tombé dans les eaux tourbillonnantes de l'enfer, qui d'ailleurs dans les textes ne sont pas des eaux tourbillonnantes. Ça doit être une influence indienne ou manichéenne. C'est plutôt une bouche de feu. Ils arrivent donc... ce qui est décrit ici, c'est ce qui est dépeint ici, c'est donc ce qui est décrit dans un extrait de texte que j'avais lu à la fin du dernier cours. Puis une forme de feu conduit l'âme en avant sur le pont du Chinwat et frappe les ténèbres de l'enfer, après quoi se présente la semblance d'une montagne sur laquelle monte l'âme. En fait, la totalité du panneau gauche est peuplée de créatures paradisiaques, on va revenir là-dessus, qui commencent par les créatures aquatiques. Ce n'est pas du tout les vilains crocodiles qu'on a dans la bouche de l'enfer. Ici, ce sont des gentils canards. Et puis, des créatures plus ou moins fantastiques, mais terrestres. Et en haut, des créatures célestes à forme humaine et des musiciens. Alors, voilà, je ne commenterai pas ça. Les musiciens, on l'avait vu... auparavant, sont toujours omniprésents dans les scènes sogdiennes qui évoquent le paradis ou le monde des dieux. Parce que, tout simplement, le paradis, dans les textes zoroastriens, c'est Garudman, c'est-à-dire la maison du chant. Donc, d'une certaine façon, c'est un langage presque idéographique. Quand on montre des musiciens, ça veut dire « ici, paradis ». Bien. Alors... Les tableaux donc, supérieurs de la partie droite et centrale se décomposent en plusieurs scènes qu'il faut commenter plus en détail. Ici, ce que vous voyez ici, c'est, les deux, c'est le défunt et sa femme, reçus par trois femmes, et la scène est présidée par un dieu dans un halo, assis sur des taureaux. Et ce dieu a un rapport avec l'atmosphère, puisque vous voyez au-dessus, il y a une écharpe gonflée par le vent qu'on tient. Alors voilà la photo. Voilà. Donc, réception des deux défunts par trois femmes, dont une principale qui a des ailes et qui tient sa ceinture. Donc ça, ça l'identifie. C'est la Daine, c'est-à-dire, en avestique, la Daena, c'est un mot qui veut dire à la fois la vision et... ça a plusieurs sens. C'est à la vision et c'est aussi la foi au sens de expression de la conscience du défunt. C'est-à-dire que le défunt est rencontré dans l'au-delà par une jeune femme dépeinte comme très désirable et qui est la manifestation de sa propre conscience religieuse, de ses propres bonnes actions. Alors, que se passe-t-il s'il a été mauvais ? Eh bien, il est rencontré par une femme qui, dans certains textes, est décrite comme une affreuse mégère et qui l'insulte, et dans d'autres textes, comme une prostituée. Voilà. On va voir ça. Mais là, c'est la bonne Daine, évidemment, et comme la ceinture nouée trois fois, et on voit que c'est le cas ici, elle incarne, est le symbole même de... De la vie religieuse, d'une certaine façon, elle s'auto-désigne en se tenant sa ceinture. Elle a visiblement présenté au défunt une coupe avec des mets ou des boissons, et elle a deux femmes derrière elle, dont l'une tient assez clairement une fleur, voilà, avec des pétales ici, une autre une coupe. Et toutes ces femmes ont une couronne sur la tête. Je vais commenter plus tard, après le dieu qui est en haut. Voilà, la scène de l'accueil. Alors, ça a fait l'objet de discussions, puisque dans l'hypothèse d'une interprétation manichéenne que j'avais d'abord préférée avec Étienne de la Vessière, il se trouve que les textes manichéens, notamment Sogdiens, parlent aussi de l'accueil de l'âme, elle n'est pas nommée comme la Daine, mais enfin par une jeune fille, ou un ensemble de jeunes filles. Mais là, on est dans un cas où il est très très difficile de distinguer, de faire passer le rasoir entre les traditions religieuses, parce que l'imagerie manichéenne a emprunté au zoroastrisme, dans ce cas précis. Les textes manichéens d'Asie centrale parlent du pont, et ils parlent aussi de la jeune femme et de ses suivantes. Donc là, on est dans un cas où on peut pas décider d'emblée. Un texte qui se rapporte assez bien à ce qu'on voit ici, c'est un passage justement sogdien manichéen, mais clairement inspiré de l'imagerie zoroastrienne, et que je cite, et sa propre action, parce que la Daine est parfois appelée... Kirbag, la bonne action, et sa propre action sous forme d'une merveilleuse déesse, d'une déesse en vis-à-vis, donc qui le regarde, d'une vierge, viendra devant sa face dans d'éternels nuages, tenant une boisson et sur sa tête une couronne de fleurs. Là, on est assez près de cette imagerie. Il se trouve que la coupe a été déléguée à une suivante, mais par ailleurs, elle devait en tenir une qui a les bras ouverts, la main ouverte. Elle devait en tenir une qui a été ici remise à la femme. La couronne de... Voilà, on a effectivement les fleurs sur la tête, des fleurs tenues à la main. Ça, c'est l'élaboration d'un thème qu'on a dans l'Avesta, où on ne parle pas de la couronne de fleurs, mais où on dit que la Daine, si elle est bonne, va arriver dans un vent parfumé venu du sud. C'est ça qui, en fait, annonce au défunt que ça va bien se passer. Ça sent bon. Donc, c'est la bonne Daine qui va le rencontrer. Évidemment, parfois, ça sent très mauvais. Et là, c'est la mauvaise den qui va le rencontrer. Il se trouve qu'on a un parallèle, un assez bon parallèle sogdien, plus tardif. Ça, c'est des environs 900. C'est les dernières manifestations de la religion sogdienne à Tunhuang. Il se trouve qu'elle est à la BNF. C'est Pellio qui a ramené cette bannière. C'est une bannière qu'on devait utiliser dans les processions des temples zoroastriens qu'on appelle dans les textes donc chinois les temples Xi'an, c'est-à-dire que c'est le zoroastrisme un peu spécial des Sogdiens. Et on sait que ces bannières étaient allouées au temple pour la cérémonie des actions de grâce. Or, il y a effectivement une action de grâce par jour dans le zoroastrisme, par l'eau de 30. Il y a 30 jours dans le mois zoroastrien. Et donc, j'ai fait l'hypothèse, peut-être un petit peu fragile, que chaque bannière représentait le dieu du jour du calendrier. Et il se trouve qu'ici, ce serait l'avant-dernier jour, c'est-à-dire le jour consacré à la déesse Den, parce qu'elle est par ailleurs une déesse. Elle est à la fois individuelle pour le défunt, et en même temps, elle est une déesse. Alors, vous me direz, très bien, le défunt masculin est rencontré dans le paradis par une jeune fille charmante qui va lui annoncer le sort heureux qu'il annonce. Mais qu'est-ce qui se passe pour sa femme ? Voilà, on s'attendrait, en bonne logique, à ce que les textes nous parlent d'un beau jeune homme qui va rencontrer l'épouse au paradis. Eh bien, non. Ça va peut-être vous étonner, les textes n'en parlent pas. Ce qui est implicite, c'est en fait, c'est que la femme, c'est pas très clair, mais la femme partage en fait la den de son mari. Voilà. Dans le cas des deux défunts en question, ça se justifie quand même tout à fait parce qu'ils sont morts presque au même moment. Alors, voilà donc cette bannière de Dunhuang. C'est du papier légèrement coloré. Ici, c'est la bonne den. Alors, voyez, les signes ne trompent pas. La ceinture nouée à triple niveau, la coupe qu'elle tient en main, comme dans le texte sogdien, les fleurs sur la tête, donc on retrouve tout à fait ça sur notre image, les fleurs, la coupe qu'elle a remise ici, et qu'est-ce qu'elle a dans le plat ? Un chien, parce que c'est le chien qui garde l'entrée du pont du Chinvat. Et c'est un chien qui a l'air gentil. Vous voyez, il reste la queue, là, il frétille, c'est un gentil lévrier. Bien. Et elle a les yeux ouverts. Ça, c'est très important, parce que la racine d'en, enfin d'ayana en avestique, vient du verbe qui veut dire voir. Elle voit les bonnes actions, elle échange un regard avec le défunt. En fait, c'est ce qui indique le processus du salut. Mais alors, qui est en face ? Eh bien, en face, c'est la mauvaise den. Alors ici, ils ont pris le côté prostituée. Ils n'ont pas pris le côté mégère. Alors, vous voyez qu'au lieu d'un chien, elle tient un espèce de scarabée, un insecte impur. Bien. Et elle est assise sur un loup, qui est la contrepartie démoniaque du chien dans la zoologie zoroastrienne. Elle tient ici un serpent. Donc tout ça, ce sont des créatures mauvaises. Elle soulève le soleil et la lune. Alors là, c'est un emprunt à une autre déesse, je ne commente pas. J'ai publié ce document il y a longtemps avec le savant chinois Zhang Wangda. Pour faire bonne mesure, au lieu de la ceinture de coton nouée trois fois, elle a une ceinture de cuir. Ça, c'est décrit aussi dans les textes zoroastriens. Les démons ont des ceintures de cuir, pas des ceintures de coton. Et la ceinture est ouverte. C'est une prostituée. Voilà. Donc le symbolisme fonctionne ici très bien. Donc, vous voyez, ça, on est encore là, on est... 17, 18, on est 3-4 siècles après notre tableau, mais ça fonctionnait toujours. Bon, c'est vraiment les ultimes manifestations de la religion de la religion zoroastrienne sogdienne en Chine. Alors, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe plus haut. C'est un dieu qui trône, donc j'ai dit, dans un halo, avec trois taureaux, visiblement atmosphérique, il y a une écharpe qui flotte, et il a un aspect shivaïte, car il tient un trident, et il est sur des taureaux, symbole de Shiva. Alors là, il faut une petite explication. Les textes zoroastriens nous parlent du dieu qui va accueillir les défunts et qui va les amener, enfin, assurer leur transit vers le paradis. Ce dieu dans les textes s'appelle Vayu. Vayu, dieu de l'atmosphère. Je cite ici un extrait du Bundaishn. Le feu Farnbag conduit l'âme au sommet du mont Hariburz. Voilà, c'est ce qu'on a vu, hein, les flammes qui guident sur le pont. Le mont Hariburz, qui est le sommet du monde, ça a donné l'Elburz aujourd'hui en Iran. Et alors, le bon Vayu la prend par la main et l'amène à son lieu propre. Ayant reçu l'âme, il la remet. Et le troisième pas conduit l'âme à la station du soleil, qui est le paradis lumineux. Parce qu'il va d'abord à la station des étoiles, de la lune, et à la station du soleil. Alors ça, je vais commenter brièvement, je n'y reviendrai pas. Ici, on est au paradis. Alors, c'est très confus, mais voilà. Quand on regarde bien, les musiciens qui indiquent qu'on est au paradis. Voilà le défunt et sa femme. Alors, vous voyez qu'ils ont des couronnes sur la tête. Voilà. Au paradis, et on va le voir sur un autre document ensuite, un autre tombeau, on reçoit une couronne. Et ils sont sur des chevaux ailés. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a deux autres chevaux ici. Vous les voyez ? 1, 2, 3, 4. Ceux-là, ils ne sont pas montés. Qu'est-ce qu'ils font là ? Eh bien, on a voulu exprimer l'idée d'un quadrige, c'est-à-dire quatre chevaux qui divergent comme ça, et c'est la façon schématique dont on représente un char tiré par quatre chevaux sur un certain nombre de documents, notamment des sceaux sassanides, représentant le dieu Mitra. Mitra, juge des morts, et dieu du soleil. Donc là aussi, c'est un langage presque idéographique. On nous dit ici, soleil. Le soleil n'est pas montré, mais on nous exprime l'idée qu'on est sur un plan solaire et que donc le processus de passage à l'au-delà est arrivé. Bien. Alors, maintenant, ce dieu ici, on attendrait Vayu. Ici, iconographiquement, c'est plutôt Shiva, mais un Shiva quand même assez modéré, puisqu'il n'a pas les trois têtes. Voilà. Il est quand même très adapté. Bien. Alors, il faut savoir que, donc déjà, Vayu, c'est le dieu de l'atmosphère, donc c'est tout à fait consistant avec le cohérent avec le tissu, l'écharpe qui flotte. Ça, ce n'est pas un symbole de Shiva. Ça montre que c'est bien Vayu, dieu de l'atmosphère. Et nous savons par ailleurs qu'en Asie centrale, pour représenter Vayu, on avait depuis longtemps adopté le type de Shiva. Alors voilà une monnaie Kushan qui nous montre Vayu devant son taureau, Nandi. Shiva devant son taureau, Nandi. Ici, il a quatre bras, voilà, ce qu'on ne voit pas ici. Il tient un trident, comme celui-là. C'est très proche, le taureau, le trident. Mais il est identifié en bactrien, non pas comme Shiva, mais comme Oesh, Wesh, c'est-à-dire, en fait, la forme bactrienne de Vayu. Wayush, on avait dit, nominatif, ça a donné Wesh en bactrien. Donc, ça nous montre clairement cette identification. On a pris le type de Shiva pour fabriquer le dieu Vayu. Et ici, il a gardé totalement ses caractères shivaïtes. Alors ici il n'y a qu'un taureau, mais voilà un tableau qui vient donc du sanctuaire bouddhique de Dandanwilik près de Khotan, qu'on date maintenant du 7e siècle. Alors je vous dis tout de suite, à mon avis, on a dit que c'était Vayu, à mon avis c'est vrai, lui c'est vraiment Shiva, c'est vraiment Shiva, avec la tête normale, masculine, féminine et démoniaque. et en plus, voilà, le phallus, très shivaïte, et le corps bleu. Mais si je vous le montre, c'est qu'ici, on a mis deux petits taureaux. C'est-à-dire que du point de vue strictement iconographique, on est quand même très près de cette image avec ces trois taureaux. Donc, c'est tout à fait... D'ailleurs ben bon, tout le monde n'était pas d'accord avec moi au début, mais maintenant, il se trouve que là-dessus, tout le monde l'est. C'est bien le dieu Vayu, réceptionniste des âmes, représenté à la manière sogdienne, c'est-à-dire en empruntant les traits de Shiva. Alors, ça ne s'arrête pas là. C'est vraiment un panneau d'une richesse prodigieuse. Il se passe ici quelque chose, au milieu, entre la réception des âmes et leur arrivée triomphale dans la station du soleil paradisiaque. Vous voyez ici une femme qui tient un objet indistinct. Elle est ailée. Et il y en a une autre ici qui tient un objet également indistinct. Et celle-là, elle est culbutée. Vous voyez, elle tombe. Non, il y a visiblement eu un combat entre ces deux femmes. Et celle-là exhibe quelque chose. Alors ça, avec Étienne de la Vessière, ça nous a donné beaucoup de fil à retordre. Voilà, la scène. Vous voyez très bien, la femme avec ses ailes, elle a la même couronne que la Daine et ses suivantes sur la scène de réception des âmes. Ce n'est pas par hasard, parce qu'à mon avis, maintenant, c'est la même. Et ici, une femme qui est culbutée, et qui est représentée selon... c'est pareil, donc, ces artistes qui étaient de formation bouddhiste, quand ils avaient besoin de modèles et que les Sogdiens ne leur fournissaient pas, ils allaient puiser dans leur répertoire bouddhiste. Alors là, ils ont fait un copier-coller. Ils ont pris une apsara, tout simplement. C'est la manière dont les apsaras sont représentées à Dunhuang, flottant, se balançant dans l'air, voilà. Alors, on les voit ici. Vous la voyez, là, celle qui tient cet étrange objet et celle qui est culbutée. Alors, on a cru au début, Étienne et moi, qu'il s'agissait d'une petite statue, d'une petite forme humaine. On a cru ça sur les photos. Et il se trouve que dans les textes manichéens, à la fin des temps, les particules de lumière des âmes formeront quelque chose qu'on appelle la dernière statue. Voilà. Alors, bon, ceci dit, entre-temps, on a trouvé sur les peintures manichéennes de Chine l'image de cette dernière statue, et ce n'est pas du tout représenté comme ça. Et puis surtout, en mai dernier, j'étais à Xi'an, devant le sarcophage, et j'ai bien vu que ce n'était absolument pas une forme humaine. C'est tout simplement, c'est assez bien dessiné ici. Bon, le couvercle est un petit peu exagéré. C'est un vase qui a un couvercle bombé. Alors, on a beaucoup de chance, parce qu'au même moment, Michael Schenker publiait ce sceau sassanide oriental où on a très clairement l'Aden accueillant les âmes, c'est un couple, et elle a ses deux chiens, exactement comme sur notre... On ne peut pas rêver mieux, elle a ses deux chiens exactement comme sur notre relief. Elle tient un vase qui est exactement... qui est exactement semblable. Les défunts, alors ils ont un costume curieux, vous voyez, une sorte de caleçon. Bon, c'est une façon, au paradis, au moment du jugement, en principe, on est nu. Donc, c'est une façon d'exprimer la nudité, mais dans l'art sassanide et l'art sogdien, on est très pudique. Donc, on les a mis en sous-vêtements. Voilà. Mais c'est pour montrer qu'ils sont dépouillés de leurs habits. Alors, donc, ce que nous avons, qu'est-ce qu'il y a dans ce vase? Eh bien, il y a un texte qui nous le dit, enfin même plusieurs, mais il y en a un qui est particulièrement clair, que je cite là. Les porteurs de trésors, les porteurs, ça peut être aussi les porteuses, parce que le genre n'est pas distingué. Les porteurs de trésors à qui sont confiés ses bonnes actions et ses péchés, c'est-à-dire ceux de l'âme qui veut, s'avancent ici pour un combat. si le porteur de trésor des bonnes actions est de force supérieure, par sa victoire, il libère l'âme des mains de l'adversaire et la conduit au siège suprême, dans la joie partagée des Lumières. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est évidemment le combat entre la bonne Daine et la mauvaise Daine à nouveau. La mauvaise Daine prostituée, donc ici représentée comme une apsara, les femmes légères de la mythologie indienne, et la bonne Daine a gagné et elle exhibe le vase où se trouve probablement un rouleau sur lequel sont inscrits les bonnes actions du défunt. L'autre, qu'est-ce qu'elle tient? Alors, l'objet est assez indistinct.
On dirait un miroir.
Non, alors, c'est pas ça, je pense que c'est... Je pense qu'en fait, c'est le rouleau des mauvaises actions du défunt, mais qui est transformé en charpie, parce qu'il ne sert plus à rien. Et donc, et la mauvaise Daine est vaincue, est précipitée en contrebas, et voilà déjà, juste à gauche, le début du quadrige solaire qui va amener triomphalement les défunts au paradis. Alors, bon, je ne vous cache pas que, selon moi, c'est le plus extraordinaire document iconographique de toute l'histoire du zoroastrisme. Voilà. Et il a fallu attendre 2004 et en Chine pour le trouver. L'art zoroastrien n'était pas connu comme étant particulièrement riche et imaginatif. Mais vous voyez ici qu'avec beaucoup d'argent, avec des bons artistes qui étaient bien formés au répertoire bouddhique, solidement encadrés probablement par les prêtres de la famille qui connaissaient bien leurs textes, on est arrivé à faire quelque chose d'extrêmement précis. Alors, je ne résiste pas à un petit clin d'œil de l'histoire. Je vais vous proposer là un grossier anachronisme. Voici la pierre tombale d'un Génois qui est mort de la peste en Chine sous les Mongols en 1350 à Yangzhou. Yangzhou, c'est tout simplement la ville dont 60 ans avant, Marco Polo avait été sous-préfet pendant 3 ans. C'est un port pas loin de Shanghai. Il s'appelait Antonio Viglioni. Et il était le fils du juge de la communauté génoise de Yangzhou. C'est-à-dire, tout simplement, il était le fils de ce qui correspondait à la fonction des sapao, à l'époque plus ancienne, chef de la communauté marchande étrangère. Et qu'est-ce qu'il a fait représenter? Qu'est-ce qu'on a représenté sur son tombeau? Le jugement dernier. Jésus, les deux archanges, et ici, c'est pas très clair. Enfin, voilà, c'est les âmes qui sortent de terre, vous voyez, les âmes qui sortent de leur tombeau. Voilà, voilà, il est tout nu. Un ange ici, ici, la Vierge Marie. Voilà. Donc, a même besoin, voilà, même besoin d'affirmer sa fidélité à sa religion native, mêmes expressions, et c'est parfaitement symétrique puisque on est chez le fils de quelqu'un qui avait des fonctions correspondant exactement à ce qu'était le sapao 5 siècles avant. J'en ai terminé avec le tombeau de Wirkak, mais je n'en ai pas terminé avec ces tombeaux sogdiens. Je vais maintenant en voir deux qui ont la particularité d'être iconographiquement proches des tombeaux sogdiens, mais ils n'appartenaient pas à des sogdiens. C'était des membres d'autres communautés. Mais on voit très bien que ce qui a dicté la norme, c'est les commandes des riches marchands sapao-sogdiens. Alors, pour ces communautés qui n'étaient pas sogdiennes, pas zoroastriennes, les Chinois avaient un terme, c'était zahu, hu mélangé. Alors, les hu, en principe, les hu, c'est les barbares d'Occident. Et à partir de l'époque des Tangs, ça désigne vraiment les Sogdiens, mais malgré tout, il y a quand même cette idée que ce n'est pas seulement les Sogdiens. Alors, quand ils n'arrivaient pas à adopter une nomenclature très claire pour ces gens qui pouvaient être métis, indo, sogdiens, bactriens, etc., on disait « ou mélanger ». Alors, ce sarcophage a été trouvé à Taiyuan. C'est un grand centre historique qui est en fait à mi-chemin entre Pékin et Xi'an. Et Taiyuan a un rôle important dans l'histoire de la dynastie Tang, parce que c'est de là que sortait Li Shimin, le premier empereur Tang. Et on sait qu'il y avait toujours eu une grosse communauté sogdienne. Et d'ailleurs, une partie des Sogdiens qui vont faire leur ascension dans l'entourage des premiers Tang venaient de Taiyuan. Alors là, on est avant les Tang. Hein. Yu Hong est mort en 592. La date de 598 correspond à la mort de sa femme, où le tombeau a été remanié. On a rouvert le tombeau et on a complété les sculptures. Donc là, on est il meurt sous la dynastie des Sui, qui vient de réunifier la Chine et qui va, 20 ans plus tard, donner place aux Tang. Alors, on a l'épitaphe en chinois, pas en sogdien, elle pose quelques problèmes. Le personnage ne semble pas être un sogdien parce qu'il s'appelle Yu Hong. Il ne porte pas l'un des 9 noms Kang, Han, etc. qu'on trouve partout. Il a pas un nom de famille sogdien. Il est dit originaire du pays de Yu. Alors, le pays de Yu pose problème. On ne sait pas bien où le situer. C'est visiblement vaguement. C'est à l'ouest. C'est sur la frontière ouest de la Chine, mais on ne sait pas exactement où le situer. En fait, on voit par son épitaphe que il a commencé sa carrière non pas en Sogdian, non pas en Chine, mais chez les Juanjuan. Alors, maintenant, c'est écrit Ruran en transcription pinyin. Ruran, apparemment, ça se prononce Juan. Avant, on lisait Juanjuan. Ça désigne la grande confédération nomade qui dominait les steppes au moment où les Eftalites dominaient l'Asie centrale. Ils étaient d'ailleurs alliés, les Eftalites, comme les Juanjuan, en 560, vont succomber devant la montée de l'Empire turc. Juanjuan, en fait, c'est un nom, c'est probablement une épithète donnée par les Chinois. Alors, ça pourrait vouloir dire les remuants ou alors les insectes. Voilà, c'est dépréciatif. Yu Hong a commencé sa carrière comme haut fonctionnaire chez les Juanjuan. Donc, quelque part, en Mongolie, au sud de la Mongolie. Et encore une fois, bon, originaire du pays de Yu, peut-être était-il en partie sogdien, c'est même probable, mais on ne peut rien dire de plus. Il a été haut fonctionnaire des Juanjuan comme son père avant lui et comme son grand-père avant lui. Alors, il se trouve qu'en 521, quelques années avant la naissance de Yu Hong, la chronique du Weishu mentionne l'arrivée à la cour de Chine de 6 envoyés du roi des Juanjuan. Donc, il se pourrait très bien que le père ou le grand-père de Yu Hong ait pu être l'un d'eux. Et dans ce cas-là, on aurait un cas unique de correspondance possible entre les personnages des tombeaux et des personnages mentionnés par les chroniques. Alors, les Juanjuan, je vous ai dit, ils disparaissent en 550 au moment de l'ascension des Turcs. Ils ne disparaissent pas complètement parce qu'une partie d'entre eux va s'enfuir en Occident, va s'établir en Hongrie, où on voit apparaître à ce moment-là les Avars. Et les Avars viennent des Juanjuan. Voilà, donc, d'une certaine façon, leur civilisation se continue. Au musée de Budapest, il y a toute une section sur les Avars qui ont eu un empire assez brillant, ouais, détruit par Charlemagne. Alors, ils avaient des traits centra-asiatiques, puisqu'ils avaient un khan, ils avaient des camps circulaires, ils avaient amené visiblement une partie de leur culture avec eux. Alors, Yu Hong, donc, qui vient d'une famille de hauts serviteurs des Juanjuan, a accompli pour eux, nous dit son épitaphe, sa première mission diplomatique au Tibet. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas encore les Tibétains, c'est les Tuyuhun qui les précèdent, hein, et en Perse sassanide, et il avait 13 ans. C'est assez jeune pour un ambassadeur. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que, en fait, il accompagnait son père, voilà, qui l'initiait au métier de diplomate. En 550, donc il a 18 ans, il passe au service des Chinois. La dynastie, à ce moment-là, des Tsi septentrionaux. Et ce n'est pas par hasard s'il passe chez les Chinois en 550. C'est que, à ce moment-là, l'Empire Juanjuan est démoli par les Turcs. Visiblement, il préfère se mettre au service des Chinois que des Turcs. Et il a une longue carrière. Il a servi 3 dynasties et 10 empereurs. En 580, il reçoit un poste dans l'administration des Sapao. On en a parlé, les chefs communautaires, les chefs des communautés marchandes étrangères. Il n'est pas Sapao lui-même, mais il a un poste élevé dans l'administration des Sapao. Mais quand on regarde dans le détail, il a surtout occupé des fonctions de gouverneur militaire dans divers endroits proches de la frontière. Donc on peut penser que ses attaches étaient plutôt tribales que commerçantes. C'est quelqu'un qui avait dû garder des attaches avec les nomades fraîchement sédentarisés en Chine. Alors, le tombeau de Yu Hong nous offre de tous le décor sans doute le plus raffiné. C'est une iconographie parfois pas très contrôlée. On a l'impression que les thèmes n'ont pas toujours été très bien compris, mais c'est très raffiné, c'est du beau marbre, polychrome. C'était davantage polychrome quand on l'a trouvé, mais malheureusement, ce sarcophage est resté plusieurs années au poste de police, du moins où je l'ai vu avec Étienne de Lavessière en 2004, près du radiateur, et ça a endommagé les peintures. Maintenant, ils ont construit un musée. C'est vraiment... Là, c'est vraiment très subtil. Je vais en reparler tout à l'heure. Vous avez la façade principale, ici, du sarcophage. Alors, ma flèche. Voilà, ça marche. Et, en fait, là, vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un panneau ici, avec un relief. Un panneau ici, et là, il n'y a pas de panneau, c'est la porte. Et ce que vous voyez, c'est la paroi du fond. Et en réalité, les 3 panneaux, symboliquement, marchent ensemble. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, on a en fait une fenêtre, c'est vraiment, j'anticipe, c'est probablement le dieu Mitra qui reçoit un cheval sacrificiel. Et à l'arrière ici, on a le défunt et sa femme qui banquettent au paradis. Donc on a, c'est vraiment, c'est une porte qui ouvre vers l'au-delà. Alors, ceci dit, il y a d'autres thèmes. On pense qu'en fait, les peintures à plat ont été exécutés au moment où Yu Hong est mort, et les reliefs peints ont été exécutés 10 ans après, quand sa femme l'a rejoint dans le tombeau. Alors, ces peintures sont d'une qualité vraiment... Enfin, c'est déjà de la miniature persane. Hein. Alors, vous avez les scènes habituelles de délassement, musicien, voilà. La chasse, inévitable. La chasse, ici aussi. C'est vraiment les thèmes qu'on retrouve absolument partout. Mais une petite nouveauté, ici, enfin, ce n'est pas vraiment une nouveauté, puisqu'on a vu ça sur le tombeau d'Anbei. Là, c'est mal conservé, mais on voit ici un personnage qui est torse nu, qui a un assez gros ventre et des traits, une barbe fournie. En fait, on voit pas bien sur cette photo, mais au naturel, on voit beaucoup mieux. Et c'est un personnage bachique. C'est un silène. C'est comme sur le tombeau d'Anbei, ces images de silène qui expriment la félicité du paradis où on boit beaucoup de vin. Alors, et voilà, un des panneaux. Le vin occupe une place assez importante dans cette iconographie. Voilà un panneau qui montre 3 petits personnages qui foulent le vin. sur un grand pressoir à vin qui est représenté d'une manière très conventionnelle. Et à côté, un personnage qui est nu jusqu'à la ceinture et qui est visiblement en état d'ivresse. Alors, chose tout à fait remarquable, ces trois petits personnages qui foulent le raisin sont très proches de ce qu'on a sur le sarcophage de Porphyre de Sainte Constance à Rome, 354. C'est une fille de Constantin. Vous avez les trois petits foulons et ici la bouche d'où s'échappe le liquide, le mou qui va remplir les cuves. Alors on ne voit pas les cuves ici. Il y a un autre tombeau où on les voit. C'est directement emprunté à indirectement emprunté à l'iconographie occidentale et avec probablement maintien du symbolisme puisque en contexte chrétien, évidemment, la vigne, c'est la vigne du Seigneur, c'est l'expression de la vie éternelle, etc. Et c'est sans doute pareil ici. Alors, les surprises ne s'arrêtent pas là. Voilà des scènes de chasse qui introduisent le thème exotique qu'on a vu sur déjà un certain nombre d'autres tombeaux. Alors ici, vraisemblablement, les chasseurs sont distingués à la fois par leur monture et par leur accoutrement. Au centre, vous avez sur un chameau à deux bosses, qui est montré toujours très... C'est un étalon de chameau, oui, ils sont toujours représentés très méchants. C'est un Turc, avec sa longue natte, ça montre que c'est un Turc. À gauche, il est sur un dromadaire. Alors, ça pourrait être un arabe ou peut-être un perse. Et à droite, sur un éléphant. Alors, ça pourrait être un indien du Nord. Peut-être le défunt lui-même, parce que le défunt lui-même est sur d'autres panneaux représenté avec une barbe. Et vous voyez, c'est une iconographie très... c'est très stylisé. Les lions sont omniprésents et des lions qui ne sont pas réalistes, enfin qui viennent vraiment de la manière dont on représentait les lions sur les places assamides. Des lions ou des lionnes, oui. Qu'on ne chasse pas, qu'on ne trouvait ni en Chine, enfin un peu en Chine du Sud, qu'on ne trouvait pas en Chine du Nord, ni dans la steppe, ni en Asie centrale. On les trouvait en Iran et en Inde. Alors, d'autres scènes, assez difficile pour certaines scènes de décider si on est sur Terre ou si on est au paradis. Il y a probablement peut-être une équivoque. En tout cas, le personnage, on voit réapparaître de manière récurrente un personnage barbu qui a une couronne de type sassanide et qui a un halo. Alors c'est probablement le défunt. Est-ce qu'il est sur Terre? Est-ce qu'il est déjà au paradis? C'est assez difficile d'en juger. Mais alors, des motifs très sassanides, et donc ça nous rappelle que dans sa jeunesse, il a séjourné dans l'Iran sassanide. Il accompagnait son père en mission diplomatique dans l'Iran sassanide à son apogée, c'est-à-dire chez l'empereur Khosrow Anushirvan. Et ça, c'est typique de l'art sassanide, les rubans au pied des chevaux, beaucoup de choses ici viennent de l'art sassanide plus que ce qu'on a sur d'autres de ces tombeaux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait en façade cette composition extraordinaire où deux panneaux encadrent une ouverture vers le monde de l'au-delà. Alors, les deux panneaux d'encadrement ici, pour la commodité, ont été rassemblés en dessin, mais en fait, il y a eu une inversion en réalité, ou c'est peut-être ma photo qui était inversée. Il faut basculer gauche-droite. À gauche, ici, vous avez un personnage juvénile. Il n'a pas de barbe, contrairement au défunt. Il tient une grenade à la main. Il est sous un parasol, donc ça indique qu'il est... ça indique que c'est un personnage divin ou royal. Et en face, il semble qu'on lui présente un cheval harnaché mais sans cavalier. Alors voilà, ici un tapis de sel. En fait, ce personnage ne monte pas sur le cheval, il est représenté derrière. Et là, vous avez deux personnages qui portent une espèce de paquet, et je me demande si ce n'est pas ce qu'on avait vu sur le tombeau Miho, c'est-à-dire le tissu qu'on offre pour habiller le défunt dans l'au-delà, ce qu'on appelle le cédra. Bon, l'interprétation qu'avait proposée Marchak, et je crois qu'elle est assez crédible, c'est qu'il s'agirait du dieu Mitra, dieu du soleil et juge des morts, qui reçoit le sacrifice funéraire du cheval. On sait par ailleurs, enfin on sait que dans on sait par Hérodote que le cheval en Iran, dans l'Iran achéménide, était sacrifié au dieu du soleil, était sacrifié au soleil, donc à Mitra. Donc c'est probablement Mitra recevant le sacrifice du cheval et entre dans l'ouverture entre ces deux panneaux. Se glisse la porte qui va donner au fond sur ce tableau qui assez vraisemblablement se déroule au paradis. Alors je m'excuse, la photo n'est pas très bonne, mais le dessin n'était pas très bon non plus. Ce que vous voyez un grand dais ici, et vous voyez ici un couple avec couronne, et il a une barbe, c'est Yu Hong probablement. Il banquette avec sa femme qui a aussi une couronne. Voilà. C'est la seule scène dans tout l'ensemble où on voit une femme. Et c'est sans doute la femme du défunt. Et ils sont accompagnés par des créatures qui ont tous des halos, des rubans, qui sont apparemment paradisiaques. Ici, c'est assez curieux, cette femme tient dans les deux mains une palme. Pour éventer les bancteurs. Mais je pense qu'en fait, c'est la réinterprétation du thème d'une femme qui devait être ailée. Et donc, au paradis, il y a des femmes ailées qu'on appelle les Fravashi, qui sont les anges gardiens du. Voilà, je pense qu'ici, en fait, c'est une aile qui a été réinterprétée. Vous avez des danseurs, des musiciens, tous avec des halos. Scène assez curieuse où on voit des lions qui s'apprêtent à avaler la tête. Enfin, ils avalent la tête d'humain, mais en même temps, les lions ne sont pas en position très favorable puisque celui-là est quand même en train de se faire passer une épée dans le corps. Alors, est-ce que c'est... Marchak pensait que c'était... que ça symbolisait le combat entre la vie et la mort. En tout cas, on a quand même là pas mal... Et en plus, là, on est sur une treille de vigne. Alors bon, ça peut se lire de plusieurs manières. Ça peut être le banquet du Nouvel An, le festin qu'on a vu sur d'autres tombeaux sogdiens. Mais ici, il y a quand même... On soupçonne tout de même qu'on est au paradis. Voilà. Et surtout, la façon dont c'est agencé par rapport à l'encens, avec ces scènes où Mitra se fait apporter le cheval sacrificiel, bon, on a voulu dire quelque chose. Donc ce décor, il est à la fois très raffiné et assez atypique, et encore une fois, on a l'impression que le Yu Hong a été marqué par l'Iran. Voilà, il y avait passé sa jeunesse et il y a plus d'éléments iraniens qu'on en trouve par ailleurs. Alors, je vais continuer et en fait terminer la revue de ces lits funéraires avec un lit qui a eu un destin un peu particulier. Voilà, ce qu'on appelle le lit Kouros de la part d'après son propriétaire, qui aurait été trouvé à Tian Shui. Alors, Tian Shui, c'est à la limite entre le C'est à la limite orientale du corridor du Kansu. Alors, ce lit, certains d'entre vous ont dû le voir, il a été exposé brièvement au musée Guimet en 2004. Il a fait à ce moment-là l'objet de deux publications par Françoise Lacour et Catherine Delacour et Pénélope Riboud. Il était sorti par le marché des antiquités. Il a été très bien nettoyé, restauré, exposé au musée Guimet, et quelques semaines après, il a disparu. Il a disparu, et aujourd'hui, personne ne veut dire où il est. Je ne sais pas où il est, il y a probablement des gens qui savent, mais on n'en parle pas. Alors, ce malheureux lit funéraire est tombé au milieu... Enfin, l'histoire, c'est qu'il est... Il est tombé au milieu d'un imbroglio juridique et politique. Les autorités chinoises, qui auparavant ne s'étaient pas beaucoup émues de l'exportation de lits sogdiens de Chine, ont fait un scandale. Et l'intermédiaire, qui était belge, l'intermédiaire qui était en Chine, a été assigné à résidence, où il est mort. À la suite de cela, il a paru opportun que cet objet soit soustrait au regard. Et 14 ans après, c'est toujours le cas. Mais il a été très bien publié, donc on peut travailler. Là, on n'a pas, bon, comme ça vient du marché des antiquités, on n'a pas l'épitaphe. On ne sait pas qui est le défunt. La rumeur, on a une idée sur l'endroit où ça a été trouvé, mais on ne sait pas qui est le défunt. Je vous dis tout de suite, à mon avis, c'est pas un zoroastrien, et c'est probablement pas un sogdien. C'est peut-être un sogdien, mais c'est à coup sûr pas un zoroastrien. C'est probablement un hindou et probablement même un vishnouite. Je vais revenir là-dessus. Alors, certains des thèmes sont... Alors, ce lit est assez pittoresque. Certains disent même un peu trop. Il y a eu des soupçons sur l'authenticité. Je ne pense pas que ces soupçons soient fondés. Certaines des scènes sont habituelles, se retrouvent aussi dans le répertoire chinois. Le charabeu, voilà. Qui transporte en principe la femme. Alors, d'ailleurs, laquelle écarte le rideau, vous voyez son visage ici. Des servantes chinoises et aussi des nains, un nain. Vous voyez, il a les pieds en dedans, là. Des nains sont représentés dans ces cortèges. C'était vraiment... Ça faisait partie du standing. Et nous verrons peut-être au cours suivant que, vraisemblablement, c'était une des denrées que négociaient les Sogdiens. Ici, des petits singes qui montent à un arbre, un manguier. Alors, c'est pareil, c'est un décor un petit peu... assez exotique, parce qu'il n'y en a pas véritablement en Chine. Ça ouvre vers des espaces lointains. Voilà. Un oiseau paradisiaque ici. Alors, scène de chasse, comme on en voit souvent. Probablement le barbu ici, ce serait le défunt. Il chasse une faune steppique. Avec à nouveau l'inévitable lion. L'inévitable lion. Qui, encore une fois, n'a jamais pu être chassé par ces gens-là, sauf dans un contexte, si on veut vraiment se persuader que c'est réaliste, il y a un contexte où des aristocrates chinois et sogdiens pouvaient chasser des lions, c'était le parc impérial. Parce qu'ils recevaient des lions par les peuples d'Asie centrale, probablement des lionceaux, parce qu'un lion adulte, ça ne devait pas être très facile à transporter à d'autres chameaux dans le désert. Ils recevaient des lions. Alors, les lions pouvaient venir d'Iran. Il y avait des lions en Iran encore. Les derniers lions d'Iran ont disparu pendant la dernière guerre mondiale. Ils étaient à l'ouest. Ça pourrait être aussi des lions qui venaient d'Inde. Il y a aujourd'hui plus beaucoup de lions en Inde dans le Gujarat, mais il y en avait autrefois beaucoup. Donc, c'était des animaux exotiques, très apprécié et très apprécié comme cadeau par l'empereur de Chine. Alors, ça pourrait indiquer que le personnage a un standing suffisant pour chasser avec l'empereur dans son parc. C'est une hypothèse. Alors, des scènes de banquet, et comme on a déjà vu parfois, on a à la fois le banquet à la chinoise et le banquet à la sogdienne. Alors ici, c'est plutôt un banquet à la chinoise, sous un pavillon, le défunt est là. Voilà, on lui amène à manger. Le personnage ici a des traits assez sogdiens. C'est un parc chinois avec des hérons, des canards. Alors, c'est tout un symbolisme. Dans l'art chinois de cette époque, le canard est le symbole de la félicité conjugale. Voilà, donc ça fait allusion au couple. Vous avez à nouveau le défunt ici avec sa barbe, des suivantes chinoises. Ici, on prépare la nourriture. Voilà, bon, c'est des scènes, disons, assez banales, mais exécutées avec beaucoup d'art. Mais alors, le banquet à la sogdienne, il est vraiment spécial. Voilà, il est complètement ivre. Voilà. Il est complètement ivre, vous voyez, il tient sa corne à boire et il est en train de basculer sur lui-même en levant le pied gauche. Vous voyez ? Et ça vient dans l'art du Gandhara, on a ce genre d'image, mais ici c'est un personnage de type Bashik Kubera ou ça vient de là, voilà. Donc on a là la fusion de deux thèmes qu'on a trouvés séparés sur d'autres lits sogdiens, notamment celui d'Anbei, c'est-à-dire le banquet à la sogdienne où on boit du vin et la scène paradisiaque où celui qui est ivre, c'est la divinité protectrice des richesses, Kubera. Mais ici, celui qui est ivre, c'est le défunt. Et ça, c'est quand même très original parce que dans le code de bonne conduite chinoise, l'ivresse est fortement condamnée. Elle n'était pas condamnée en Iran, l'ivresse en société n'était pas condamnée, puisque Hérodote nous dit que les Achéménides, qui étaient des gens très sages, faisaient les serments deux fois, à jeun et ivre. Et comme ça, c'était. On était sûr de la solidité de leur engagement. Par ailleurs, il y avait une fête qui. Et on sait que ça continuait encore à l'époque abbasside, en plein islam. Il y avait une fête où le souverain pouvait apparaître ivre à ses sujets, enfin, entendons ses courtisans, la fête de Mitra, Miragan. Le souverain, il devait être ivre souvent. Mais il apparaissait ivre en public à une occasion. Donc, ce n'était pas du tout socialement réprimandé. En Chine, oui. Et là, il a choisi visiblement le côté iranien. Alors, vous voyez, donc, les danses. Et alors là, le personnage qui est assis... C'est parfaitement burlesque. Le personnage qui est ici porte goulûment la nourriture à sa bouche. Voilà. Et vous avez là, pour faire bonne mesure, un petit lion qui lappe un reste de vin dans un cratère. Et c'est aussi une scène inspirée du répertoire dionysiaque, la panthère qui va boire dans le cratère à vin. Ça vient tout à fait de l'ouest. Et là, c'est la scène telle qu'elle est représentée sur un plat exécuté, Kushano Sassanide, qui est au British Museum maintenant, qui représente le triomphe de Dionysos, un plat du IIIe siècle. C'est extrêmement proche, comme ça en vient directement. Voilà. Alors, je vais encore voir une scène. Ici, on arrive dans le monde des dieux, et voilà, alors malheureusement, c'est abîmé, mais vous voyez ici un dieu sur un éléphant. Alors, l'éléphant est là, avec ses grandes oreilles, et vous voyez le dieu avec sa panse rebondie, sa main droite, et de la main gauche, il tient une grappe de raisin. Il a les pieds croisés. Il est sur un éléphant. C'est Kubera. C'est le dieu qu'on a déjà vu dans des scènes paradisiaques, mais là, il est vraiment sur son éléphant. C'est le thème de Kubera sur son éléphant est relativement rare en Inde, mais il existe. Voilà, sur un temple du 7e siècle, Kubera, la panse rebondie, tenant sa grappe de raisin sur un éléphant. Donc, la divinité qu'on a représentée, c'est une divinité hindoue. Et en dessous, alors, voilà, à nouveau, on est en pleine ivresse. Vous voyez, celui-là, est carrément, il tend au dieu une coupe et il est en pleine allégresse. Vous voyez, il danse d'un pied sur l'autre. Voilà, donc... je terminerai. Voilà, alors encore. Et là, un dernier thème religieux. C'est le dieu solaire Surya, en principe, il doit être représenté sur un char. Mais là, le char est escamoté, mais il a gardé deux archers à côté de lui, comme il a en Inde. Vous les voyez ici. Le dieu Surya qui tient des lotus. Mais c'est un Surya un peu spécial parce qu'il a quatre bras, ce qui n'est pas habituel. C'est donc Surya Aditya, c'est-à-dire Surya considéré comme un avatar de Vishnu. Et donc là, on arrive à quelque chose d'assez précis sur les affiliations religieuses du défunt. En plus de cela, donc, il est représenté au-dessus d'un océan peuplé de créatures grotesques et monstrueuses que vous reconnaissez. C'est ce qu'on avait déjà vu avec le relief Wirkak, c'est le symbole de l'enfer. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça pourrait être l'allusion au mythe indien selon lequel Vishnu, au moment avant la création du monde, a purifié l'océan primordial des créatures qui l'infestaient. Donc là, voilà, on arrive à quelque chose d'assez précis. Pour résumer rapidement, on a supposé que peut-être ce défunt descendait d'une communauté de Grecs d'Inde. Bon, ça va peut-être un peu loin. Moi, je pense que c'est un Vishnouite, clairement. Ça ne veut pas dire... Donc, ce n'est pas un zoroastrien. D'ailleurs, la preuve par la négative, c'est que sur cet ensemble, il n'y a pas de prêtre-oiseaux. Il y a des créatures fantastiques, mais il n'y a pas les prêtres-oiseaux qui sont vraiment la signature de la croyance zoroastrienne dans le salut de l'âme au troisième jour et la protection par le dieu Srosh. Ils n'y sont pas. Ça pourrait quand même être un Sogdien parce qu'il y avait des Vishnouites en Sogdiane. Sur les graffitis des marchands sogdiens du Haut-Indus, on a des noms, on a des personnages qui ont des noms Vishnouites. Donc, ce n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un Sogdien. Ça pourrait être aussi un Cachemirien, un Cachemiri, un Gandharien, un personnage du nord de l'Inde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a exprimé ses propres croyances dans lesquelles et son goût visiblement très immodéré pour le vin, au mépris des conventions de la politesse chinoise, mais dans un langage pictural qui est celui des grands tombeaux sogdiens. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... Il y avait un marché, il y avait des sculpteurs qui savaient travailler pour les étrangers à la commande, en adaptant les cartons à leurs desiderata particuliers. Sur 30 ans, on voit quand même que sur 30 ans, là, on voit émerger un milieu artistique qui a quand même été extrêmement riche et des commanditaires qui avaient les moyens financiers de se payer d'excellents artistes et d'imposer les thèmes qu'ils voulaient imposer. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai d'ailleurs terminé avec les tombeaux sogdiens. Et la prochaine fois, on continuera avec d'autres activités. On continuera et on terminera. Et on terminera d'ailleurs peut-être pas, ça se terminera peut-être au début de l'année prochaine, avec d'autres activités des sogliers en Chine. Pas la semaine prochaine, dans 3 semaines.